Bonjour, bonjour et bienvenue pour la 35e émission de Comic Stories, émission qui sera consacrée aujourd'hui à une visite touristique d'une ville fort sympathique, Gotham City. Ce soir, avec moi, Clément.
Bonsoir.
Étienne.
Salut.
Elvire.
Bonsoir.
Et Arnaud. Comme d'habitude, les rubriques habituelles, on commencera donc aujourd'hui par la mailbox, puis nos stories, le thème débat de la semaine, donc Gotham City, et puis on terminera sur le comics de la semaine qui est aujourd'hui Arrow, la saison 2.5. Eh bien, on va ouvrir la mailbox de suite. Incoming message. Dans la mailbox cette semaine, une réaction de Hakim qui aurait beaucoup plu à Arnaud. Dommage qu'il soit pas encore arrivé, il nous rejoindra tout à l'heure. Hakim qui a réagi à l'émission, enfin qui nous a donné son avis sur The Strain juste avant la diffusion de l'émission, mais trop tard, c'était déjà monté. Qui nous dit qu'il a été agréablement surpris, même si le héros Ephraim est limite agaçant, un peu comme Rick de Walking Dead. D'ailleurs, l'épisode 8, qui est son préféré, celui de la station essence, lui fait beaucoup penser à Walking Dead. Et il trouve le duo que forment le dératiseur et la geekette excellent et attachant. Voilà.
Ah ben.
Arnaud aurait été ravi d'entendre ça, je pense.
Mais ouais, moi aussi, ça m'a fait penser à Walking Dead, parce que en fait, il y a un épisode où ils sont dans une supérette et il y a le plafond qui s'effondre, en fait, et il y a plein de zombies qui sortent, et je pense que ça doit être pour ça aussi.
Donc toi aussi, t'as pensé un peu comme lui, hein.
Ouais, ouais, ça m'a fait penser à Walking Dead, ouais.
Ok. Quelques précisions sur la nouvelle émission série qui va commencer le 30 septembre, c'est-à-dire mardi. Dans cette émission d'une vingtaine de minutes à peu près, vous retrouverez à chaque fois la même structure, hein, comme dans les émissions hebdo. Donc on commencera par une partie très courte sur les news, avec les actus sur les castings, sur les épisodes, les annonces de nouveaux personnages, etc. Pourquoi pas les annonces de nouvelles séries, puisqu'il en tombe à peu près 3 par jour. Après, on proposera en rafale, sur un temps très court, à peu près 1 minute par épisode, un petit résumé rapide de l'avis des personnes qui l'ont vu, et puis on attaquera après sur l'épisode de la semaine, donc celui qui, pour nous, aura suscité le plus de réactions, ou qui aurait été le plus important pour sa série, dans lequel il sera passé plus de choses, enfin voilà. Donc ça c'est pour la structure de l'émission, et puis nous allons en profiter pour vous annoncer que cette émission sera diffusée en partenariat avec un autre site internet qui s'appelle surnosécrans.com. Les deux équipes des deux sites s'associent pour vous proposer l'émission, donc les membres des deux sites seront présents, un site qui n'est pas inconnu d'Arnaud pour ceux qui le suivent sur Twitter. Donc cette émission commence le 30, mardi. Allez, on attaque tout de suite nos stories. Nos stories, donc comme d'habitude, une top et une what the fuck story chacun, et on va commencer. Allez, Elvire, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Dans l'émission, en tout cas.
Je sais plus ce que je voulais dire dans l'émission. Merci de préciser. Désolée pour Clément et Arnaud, parce que je vais pas être très originale, mais ça va être un peu les mêmes. Mais c'était, en fait, mon top et mon what the fuck, c'est sur la même news, sur le film Deadpool. Je découvre Deadpool, mais je suis déjà très contente qu'il y ait un film. J'étais très contente de voir qu'il allait avoir un film dessus, parce que c'est vraiment un super héros à connaître, un super héros un peu comment dire, ovni, je trouve, par rapport aux autres. Mais justement, mon what the fuck a été sur l'annonce qu'il y a eu après la première annonce du film. C'est justement, c'est un super héros ovni qui est un petit peu irrévérencieux. Et ils veulent en faire, en fait, un PG-13. Donc, c'est un film pour les enfants. Quoi. Je veux dire, un rating pour les enfants. Et donc, je ne vois pas Deadpool avec un rating comme ça. Ça va faire quoi, du Deadpool à la Captain America, aussi consensuel Captain America. J'ai du mal à voir comment ils peuvent garder l'esprit du personnage avec ce rating-là aux États-Unis, qui va être le même partout. Avec ce rating-là, donc bonne nouvelle, mais en même temps mauvaise nouvelle. Quoi. Autant pas en faire si c'est pour en faire un personnage lisse et consensuel.
Clément, voilà. Toi, c'est ton top, du coup, si tu veux rebondir là-dessus et puis enchaîner avec ton what the fuck.
Enfin c'est mon top. Disons que ça paraît c'est partagé en fait. Mon top parce que je suis content de savoir qu'il va avoir un film Deadpool. Sur le principe, maintenant, j'ai quand même des réserves. J'espère que ça va être un Deadpool à la sauce. X-Men Wolverine, mais plus sur la petite vidéo qui était parue il y a plusieurs mois, qui laissait entrevoir vraiment, on va dire, l'ambiance du comics. Donc ça, j'espère vraiment qu'on va voir ça. Maintenant, je suis du même avis qu'Elvire. Le PG-13 me dérange. Je pense pas que ça convienne forcément, loin de là, au personnage et à l'univers même du comics. Que justement, la particularité du comics, c'est que bah, c'est violent, mais sans être trop violent, et que ça n'hésite pas à balancer des répliques crues.
Ouais, c'est surtout les répliques, ouais, les propos qu'il peut
Voilà,
avoir des fois qui sont.
j'ai peur du coup qu'avec ce rating-là, ça enlève tout ce qu'il y a de bon dans le personnage, en fait. Ça me fait un peu peur de ce côté-là, quoi. J'aurais préféré qu'ils prennent le risque de mettre aucun PG-13, et puis voilà, qu'on aille vraiment un Deadpool comme on aime dans les comics.
Et alors ton vrai what the fuck?
Mon vrai what the fuck, bah, c'est sur la fin de Kick-Ass 3. Donc là, qui est terminé depuis quelques semaines. Donc j'ai détesté, on va dire ça comme ça. Ça représente un peu tout ce que je pense de Kick-Ass 3 depuis des mois. C'est de la violence gratuite, c'est bourrin, ça s'enchaîne sans réelle cohérence, sans queue ni tête, l'histoire est pas intéressante. En vraiment, j'ai pas du tout aimé, quoi. Pourtant, j'ai espéré vraiment qu'on ait une conclusion qui semble satisfaisante, et non. Même la fin, la conclusion, vraiment, j'ai trouvé Kick-Ass 3 très décevant, bien en dessous sur la fin de Kick-Ass 2, et bien sûr encore plus en dessous que Kick-Ass 1, donc ça a été une grosse déception.
Ok, Étienne, ton top.
Alors moi, mon top d'aujourd'hui, enfin de ce podcast, ça sera Supergirl sur CBS en fait. On avait eu la rumeur qu'il y a une série Supergirl qui avait été commandée et maintenant on connaît enfin la chaîne qui va diffuser cette série, ça sera CBS. Donc pour moi c'est plus de nouvelles parce qu'en fait CBS, ils sont habitués aux
Ouais.
grosses séries, genre The Big Bang Theory, NCIS, et donc du coup ça fait des audiences monstrueuses quoi. Donc on peut s'attendre à une série vraiment de qualité, mais il faudra assurer.
Ton what the fuck?
Alors, mon what the fuck, ça sera sur Hero Corp en fait. Ils ont annoncé que la saison 4 allait être diffusée au Grand Rex en fait, en avant-première au Grand Rex. Donc, oui, pourquoi pas. J'espère juste qu'ils vont pas oublier la PCE comme ils font généralement à la Comic-Con aux années d'avant. On avait des petites exclusivités sur cette. Super série qui est française.
Pourquoi
Ça
what
va.
the
Ouais, du coup,
fuck?
pourquoi What the fuck? Bah, parce que je pensais qu'ils auraient gardé ça pour la PCE, quoi. Pour une vraie
Parce que moi,
avant-première,
mon what
quoi.
the fuck, ce
Si.
serait Hero Corp au Grand Rex, quoi.
Bah, si je peux me permettre,
Je suis pas cette série, en fait.
Je
Bah,
pense.
non. Attends.
Oh non, y a du bon, mais pour moi, c'est du sous. Bah, il a voulu, Alexandre, pas Alexandre, Simon Astier a
Oui.
voulu faire du sous-Kaamelott,
Oui.
enfin le même style, et ça fonctionne. Les blagues
Ça
fonctionnent moins bien que
s'en
dans
éloigne
Kaamelott pour moi.
beaucoup. Oui.
T'as
Mais
dû
j'ai
voir
vu
seulement les premiers épisodes.
j'ai vu les deux premières saisons, après j'ai pas été plus loin.
Ouais.
Du coup, ça
Mais c'est
s'éloigne
vrai que
beaucoup après.
vers la deuxième saison, ça s'éloignait déjà. Mais le début, j'ai vraiment tenu parce que c'était du Astier, et je sais qu'ils sont bons et que les acteurs étaient bons, mais j'ai souffert.
Oui, la première, le début, c'est un peu bizarre à se mettre. Enfin, ça met du temps à se mettre en place, mais après, moi, j'ai trouvé que c'était bon. La saison 3, bon, moyenne, quoi. Bon. Non, mais je veux dire, Alexandre, Simon Astier, pardon, il nous a habitués à avoir des infos à la Comic-Con, et là, bon. Pour moi, c'est.
La saison 4 sera sans doute déjà diffusée ou proche de la diffusion au moment de la PCE. Parce que l'année dernière, elle a été lancée en fin octobre, début novembre.
Ouais.
Donc, ils peuvent pas garder des infos. Surtout si c'est dit, si la projection au Grand Rex, c'est le 14 octobre, je crois.
Ouais, non, en
Ou
novembre,
ça.
c'est
14
novembre,
novembre.
justement.
D'accord. C'est que la diffusion va pas tarder après.
C'est la première partie, donc oui, on n'en sait pas plus, quoi.
Ok. pour ma part, mon top, c'est le Humble Bundle consacré à Valiant. Pour ceux qui ne connaissent pas le Humble Bundle, c'est tout simplement une opération, enfin, c'est un site internet qui organise des opérations avec des packs de jeux vidéo, de bouquins, etc. On paye le prix qu'on veut et on choisit à qui on veut redistribuer l'argent. Donc, soit à la prod, soit au site Humble Bundle, soit à une œuvre caritative. Et régulièrement, il y a des bundles consacrés aux comics, et là, il y en a un qui est tombé mercredi dernier, qui terminera dans 9 jours, dans 10 jours même, le jour où on enregistre, donc le 21 septembre, donc jusqu'au 1er octobre. Et donc, il est consacré à Valiant, celui-ci, et il y a l'équivalent d'une vingtaine de TPB
Ah ouais.
en numérique. Sans DRM, ça veut dire que c'est des fichiers qui vous appartiennent, que vous pouvez lire où vous voulez, et pourquoi pas même partager si vous avez envie. Donc ça correspond à, en gros, au volume 1 et 2 de toutes les séries Valiant en TPB. Plus, si vous payez 15$ ou plus, des recueils de l'univers Valiant d'avant, des années 90 donc. Donc ça représente une quarantaine d'issues. Le bundle n'est pas complet puisque au milieu de la période, c'est-à-dire mercredi, ils vont rajouter encore des comics. Donc en général, ils en rajoutent un bon tiers par rapport à ce qui est déjà existant. Donc on va se retrouver avec une trentaine de TPB pour 15$ au max, quoi. Après, c'est vous qui choisissez le prix que vous voulez. Il y a plusieurs paliers. Il y a un palier classique avec donc 10 TPB. Si on paye plus que la moyenne, que ce que les gens ont donné, là il y a 10 autres TPB qui se débloquent. Et là, si on paye 15$ ou plus, il y a le pack avec l'univers Valiant classique, on va dire.
Non.
Donc c'est au profit de l'association Comic Book Legal Defense Fund. C'est en fait un fonds qui sert à payer les frais de justice des artistes qui travaillent sur les comics et qui n'ont pas forcément les moyens, vu leur statut, de payer leurs frais de justice si jamais ils ont des questions de droit vis-à-vis des licences ou des trucs comme ça. Enfin voilà, ça a servi déjà pour de très bonnes causes, notamment des artistes qui étaient emprisonnés dans des pays étrangers parce qu'ils avaient sur eux des planches qui représentaient des choses qui étaient illégales dans le pays où ils étaient. Enfin, il y a eu plein de cas comme ça. Donc voilà, la cause est sympa. Et ils défendent également Hero Initiative et Médecins sans frontières. Voilà. Donc à vous de faire le don que vous voulez sur Humble Bundle. .com et vous recevrez vos comics et vous choisissez voilà quel pourcentage vous pouvez mettre 100% pour les associations et rien pour le site. Enfin voilà, c'est vraiment très très libre. Et puis mon what the fuck à l'opposé, c'est le prix des singles. Bleeding Cool s'est amusé à regarder et décortiquer toutes les sollicitations du mois de décembre et se sont aperçus que DC Comics à eux seuls avait 2 fois plus de comics à 3$ que tous les autres éditeurs
Oh.
réunis.
C'est sérieux?
C'est-à-dire que dans les sollicitations de décembre, chez DC Comics, on trouve 68 comics à 3$, et que quand on prend tous les autres éditeurs, Marvel, Image et compagnie, et qu'on les met ensemble, on arrive à un total de 35 comics à 3$. Ça veut dire que la ligne de 3$, elle n'existe clairement plus, et qu'on est passé, on a fait un jump à 4$. Maintenant, clairement, la grosse, grosse majorité, voilà, la ligne est franchie, et on atteint les 4$ pour la plupart des titres, quoi. Il n'y a vraiment que DC qui fait de la résistance. Et Image, ils en ont une quinzaine, je crois, à eux seuls aussi. Eux, c'est pas mal, parce que c'est quand même une bonne proportion de leurs titres. Les seuls titres à 4$ chez DC, c'est les titres qui vendent beaucoup. C'est les Batman, les Action Comics, les Detective Comics et compagnie. Et la grosse différence, c'est que ils n'ont pas forcément plus de pages de comics, ils ont juste une meilleure couverture.
Ça.
Donc voilà, DC, sur quand même 68 de ses titres, DC Vertigo réunis, ben voilà, a réussi à nous proposer des titres à 3$ et c'est les derniers. Chez Marvel, il n'en reste que deux. C'est She-Hulk et Bappy, c'est tout.
D'accord.
C'est tout, puisqu'il y avait Loki et à partir de. Et Loki passe à 4$ en octobre, donc voilà.
Ah moi j'avais d'accord, j'avais pas compris.
Il passe de combien? De 3 à 4, c'est ça?
De 3 à 4, de 2,99 à 3,99 à partir d'octobre. Et du coup, She-Hulk, sera le seul titre qui restera à 3$.
Mais le pire, c'est je crois que là où ça le faisait le plus mal, c'était quand même pour les Marvel, quoi. Quand t'as du bimensuel,
Bah voilà.
ça pique, hein.
Bah oui, puis là, t'as les weekly, là, comme Batman Eternal.
Bon, eux sont tous à 3$ et heureusement parce que c'est des weeklies.
Ouais, bah
Voilà.
toutes les semaines, hein, Ça commence à piquer.
Donc voilà, la sensation qu'on avait que les singles coûtent de plus en plus cher se confirme clairement. Et donc Arnaud, tu as un what the fuck pour ta part?
Oui, alors c'est pas encore une annonce officielle, malgré que Warner devait faire des annonces en mois d'août. On a eu une annonce, un film Shazam le dernier jour, mais apparemment ils seraient en train de recruter un réalisateur pour un film Suicide Squad. Donc cette équipe
Qu'on a vu dans la série Arrow, qu'on a
Oui,
découvert
c'est ça,
une version en tout cas.
une version, oui, de l'équipe dans Arrow, et c'est ça le problème justement, c'est que il va y avoir des films avec Batman, on va avoir une série avec un jeune Bruce Wayne, après il va y avoir une série avec Green Arrow et Flash, on les verra peut-être au cinéma, et maintenant si on a l'équipe dans Arrow plus l'équipe au cinéma, et en plus ils ont expliqué que les membres de l'équipe pourraient passer d'un film à l'autre. Si on se retrouve avec plusieurs représentations d'une même équipe ou d'un même super-héros, ça va poser beaucoup de problèmes pour le grand public qui va avoir du mal à s'y retrouver.
Bah, si y a un moment où donné, si effectivement il n'y a pas un moment où la Warner, j'ai envie de dire, pose ses couilles sur la table et pose clairement les mots de Earth 1 et Earth 2, effectivement, ça va être la merde. À partir du moment où Warner parlera de Earth 1, Earth 2 pour ces deux univers, pas de
Oh
souci.
là là.
Pas vraiment
Mais
rassurant
d'ici là qu'ils s'y mettent, on va devoir attendre au moins quelques années.
en fait. Ouais, il manque pas grand-chose, hein, il manque juste deux mots. C'est tout, donner un nom à leurs
Ils
univers. Mais bon.
ont déjà un mois de retard pour annoncer des films.
C'est
Alors
vrai.
un truc
Ouais.
aussi énorme, t'es
C'est
pas prêt
vrai.
de l'avoir.
Ce qui est encore plus drôle, c'est que là, récemment, tu as une interview de Geoff Johns, donc qui est un peu lui qui dirige tout ce qui est création. Et il a bien dit qu'il ne voulait pas, en gros, faire d'univers partagé ou même essayer de lier les univers cinéma et télé juste pour un souci d'efficacité en termes scénaristiques, quoi. Mais au bout d'un moment,
C'est
ça va
stupide parce que
forcément poser problème.
si vous lisez le communiqué de presse pour la série Supergirl, ils ne prononcent pas le mot Superman, ils disent son fameux cousin.
Ah
C'est
putain.
quand même ridicule. Au cinéma, on va parler de Superman, on va voir sa cousine à la télé, mais jamais on prononcera le mot de Superman pour ne pas lier les deux univers.
Ouais.
C'est assez
Bon,
ridicule.
on parlera sûrement de Clark Kent quand même, mais. Même pas,
Oh,
je
je
suis
suis pas
sûr.
sûr.
Non,
C'est
pas
ça
même
qu'on
sûr.
partage.
On referme nos stories et on passe au thème de la semaine. On a beaucoup de choses à dire. On est parti pour Gotham City. Gotham City, donc, la deuxième ville la plus importante de l'univers DC, avec Metropolis. Ville de Batman, hein. Bon, je pense que c'est pas peine de le préciser, si, vous pensez?
Ouais, non.
On va commencer par une petite visite guidée de la ville de Gotham City. Donc, à la base, dans Batman était à New York. Et c'est quelques années après sa création que la ville a été nommée Gotham City. Gotham, c'est un nom qui était donné à une partie de New York et qui veut dire étymologiquement la maison des chèvres.
Oui.
Donc bon, allez savoir pourquoi. Gotham City donc a été fondée par un Hollandais. Donc voilà, ça se rapproche vraiment des origines de New York, hein, puisque ça renvoie au fondateur de la Nouvelle Amsterdam qui est devenue New York après. Elle a une histoire hyper compliquée. On va vous parler des lieux importants de Gotham, et je pense que le premier qui me vient en tête pour moi, c'est le Wayne Manor.
Oui.
Logique, hein, donc la demeure familiale des Wayne,
La base.
qui abrite également la Batcave.
La Crime Alley, c'est un truc comme ça.
Crime Alley, ouais, je pense que c'est aussi le deuxième qui peut venir à l'esprit. Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit? Pourquoi,
C'est
Clément?
un peu là que les parents de Bruce Wayne se sont fait tuer.
Voilà, donc forcément un lieu.
C'est là que tout commence.
Voilà, c'est là que tout commence, effectivement. On pourrait parler d'une petite maison de repos pour personnes
Ouais.
dérangées, on va dire. Arkham Asylum. Peut-être que toi, Étienne, tu es un peu plus familier avec ce lieu, parce que je crois que tu joues pas mal aux jeux vidéo.
Oui, tout à fait, oui. Du coup, Rocksteady, le studio qui a développé le jeu, ils ont réussi à retranscrire un univers de cette prison pour psychopathes, en fait, et c'est vraiment Enfin, ça vaut le coup d'œil de jouer au jeu pour voir cet univers. Du coup, on voit des aspects qu'on n'aurait pas forcément vus avec les comics. Et ouais, c'est un lieu, oui, bah, de toute façon, c'est le lieu, la deuxième maison de Batman, quoi, hein, quand il n'est pas à la Batcave.
Et au passage, le jeu est aussi un sacré hommage à Batman. Et ça met vraiment tout en avant toute la mythologie de aussi bien Batman en soi que même de Gotham City. C'est bourré de Easter eggs. Non,
Ouais.
vraiment un jeu qui rend honneur à Batman et à Arkham. On n'avait jamais vu Arkham comme ça.
C'est
Non.
clair que grâce à ça, on a pu visiter bah, la prison en fait, et on a pu retrouver, bon, on peut pas dire la totalité, mais une liste très complète de tous les méchants que Batman y a eu, avec, comme il disait Clément,
Oui.
on retrouvait des Easter eggs dans toutes les cellules pratiquement, avec une petite patte. Et ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé avoir ces 10 dernières années, quoi. Il y a
Vraiment
aussi.
c'est vraiment le jeu qu'on rêvait tous d'avoir qui permettait vraiment d'exploiter des lieux comme ça. Parce que finalement, tu regardes par exemple dans les films, Arkham Asylum, c'est plus, on va dire, anecdotique, quoi.
Ouais.
Qui a pour même dans les films de Nolan, ok, on entend parler, on ne voit vraiment pas en profondeur, il n'y a pas du tout d'histoire autour de Arkham Asylum. Alors que là, le jeu, pour le coup, crée une véritable histoire, même sur la fondation d'Arkham, hein. C'est
Ouais.
vraiment, non, vraiment, je trouve que ce jeu-là, c'est ce qui représente au mieux Arkham et qui montre finalement tout l'enjeu, aussi bien pour la mythologie que Batman même, quoi. C'est
Ouais.
dans là, à travers Arkham Asylum, que l'histoire de Batman est représentée finalement.
On a même eu le droit récemment à Blackgate, qui est la prison pour.
Pour les détenus, on va dire, qui ne sont pas
Ouais.
fous.
Ouais, plus normal. Ouais, vite fait.
Il y en a pas beaucoup, mais voilà.
Oui.
C'est là,
Ouais.
voilà, le pingouin n'ira jamais à Arkham, mais lui, par contre, il est destiné à Blackgate, parce que
Voilà,
il est pas taré.
Oui.
Donc Blackgate, on va trouver tous les mafieux, on va trouver
Voilà.
Bane aussi.
Les bandes. Enfin, les sbires des grands méchants, quoi, principalement.
Donc Blackgate qui est sur une île au large de Gotham.
Oui.
Bah on l'a retrouvé récemment dans Forever Evil, le conflit entre Arkham et Blackgate, hein, qui a été au cœur d'une série tie-in Forever Evil dans les comics. Autre lieu, alors moi c'est un lieu plein de kitsch, on va dire, c'est le Chemical Ace.
Ah, normal.
Ah oui.
L'usine du Joker, donc là où tout a commencé pour le Joker, l'endroit où il va tomber dans la cuve et
Ouais.
devenir. Voilà. Et puis c'est très lié, enfin voilà, j'ai une affection pour ce lieu et aussi forcément pour le. Alors comment ça s'appelle? L'Amusement Mile.
Ah, le parc
Donc le parc
ouais.
d'attractions que le Joker. Voilà, que le Joker occupe et c'est dans celui-là que se passe l'histoire de. Merde.
Killing Joke, non?
Oui, c'est ça. Où Gordon est ligoté sur son manège, là, voilà.
Ouais.
Et qui sera plus tard, effectivement, tu avais raison Arnaud, récupéré par Dick Grayson pour dans la série Nightwing des New 52.
Justement, il y retourne aussi, le Joker retourne à la Maison Mile dans Nightwing.
Le casino du pingouin?
À
Ouais.
Banquise. Iceberg Lounge.
Ouais. Voilà, ça aussi, notamment, enfin moi j'ai une image particulière de cet endroit-là, c'est dans la série Batman 66. La série comics, voilà, c'est le premier lieu, la première intrigue se passe là-dessus, alors c'est un lieu qui est dépeint d'une manière super kitsch. Est-ce que vous avez encore des lieux comme ça qui vous viennent sur Gotham? Il y en a tellement.
Ouais,
Bah,
franchement.
le GCPD, forcément, le commissariat
Ouais.
central, là où on va
Avec
retrouver Bullock et compagnie.
le bat signal, ouais.
Effectivement, la tour Wayne. Et puis les ponts.
Les
Ah
ponts.
oui, les ponts, ouais.
Les ponts de Gotham qui ont une importance bah, dans les films, notamment dans un des trois films de Nolan. Et puis. Bah si, le
Dans le
troisième.
dernier.
Le
Dans le
dernier.
troisième,
Le
les ponts
premier
sont.
aussi, hein. Le
Oui, il y a un
premier.
Surtout dans le dernier.
Oui, c'est vrai, dans le premier, il y a un projet de les faire sauter aussi.
Ouais, voilà, ouais.
C'est vrai. Et puis, bah, dans une série dont on vous parlera tout à l'heure, Gates of Gotham.
Oui.
Après, voilà, cette ville de Gotham, je crois que dans chaque. Grande histoire de Batman, il y a à chaque fois un ou deux lieux mythiques qui sont.
Ah, là, par exemple, tu avais aussi plus récemment, il me semble, QG de la cour des hiboux, quoi. Par
Oui,
exemple.
qui a été ajouté très récemment.
Et qui ressort très bien. T'as le cirque aussi.
Le cirque Ali.
Le cirque Ali, ouais. Ouais, non, mais t'as vraiment une multitude de lieux.
Voilà.
Ça présente parfaitement l'histoire de Batman, de Gotham, et je pense pas que ça soit donné vraiment à toutes ces séries et tous ces héros emblématiques.
Ouais,
D'avoir une ville aussi riche, c'est clair que c'est.
Mm.
Ça fait partie vraiment de la mythologie Batman et c'est un gros plus par rapport à des personnages comme Superman qui se trouvent dans une ville finalement chiante à mourir à côté, quoi.
C'est
Ouais,
ça.
c'est clair. Ouais.
C'est Batman, les bâtiments de Gotham représentent son histoire.
Et c'est quand même pas anecdotique si on arrive à consacrer un thème de la semaine à Gotham City. Je suis pas sûr qu'il y ait une seule autre ville qui pourrait, à part New York pour l'univers Marvel, mais c'est tout quoi.
Oui.
Je vois pas. Non, je vois pas.
C'est dire l'importance de Gotham.
Je vois pas du tout.
Après, dans d'autres lieux mythiques, après il y a évidemment, mais ça c'est quelque chose qui nous rappelle tous l'enfance, la banque qui saute dans le générique de la série animée.
Ah
Enfin,
bah là.
voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui. Voilà, moi quand je pense à Gotham, je sais pas pourquoi, c'est la première chose, la première image qui me vient, c'est cette banque qui saute dans le générique du dessin animé.
Bah, n'importe qui, ouais, quand on a vu cette série, c'était magnifique. Enfin, les dessins étaient. C'est Tim, je crois, qui.
Ouais, Bruce Timm, ouais.
Bruce Timm, ouais, qui a dessiné ça. D'ailleurs, il va faire un projet sur la Justice League, il me semble. Hein.
Oui,
Enfin, ça
l'année
s'est pas
prochaine,
planté.
en 2015, ouais.
C'est
Donc,
quoi? Une
ce
mini-série.
Gods and Monsters.
Voilà.
Pour une chaîne YouTube.
Voilà.
Oh, bien.
Et oui, du coup, ouais,
Il y
cette
aura un
série,
film.
elle a tellement transcendé une génération, mais enfin même plusieurs générations de fans, que ouais, c'est clair que n'importe qui a vu cette série a été marqué, je pense.
C'est clair. Donc bah voilà un rapide, enfin voilà un petit tour d'horizon de tous les lieux importants dont on va être amené à parler dans cette partie de l'émission. Et puis pour parler de Gotham City, on a choisi de vous parler d'histoires qui portent le nom de Gotham City dans leur titre. Il y a énormément d'histoires qu'ont traversé de sagas qui ont touché, marqué, impacté la ville, ne serait-ce que le cataclysme, le fameux tremblement de terre qui a complètement ravagé Gotham et qui a abouti à la saga No Man's Land, qui est une saga importante. Il y a plein d'histoires comme ça. La saga des hiboux également, Clément, tu le disais, dans l'ajout que ça a apporté à la ville avec cette société secrète qui finalement tire des ficelles depuis le départ sans que Batman s'en aperçoive. Mais voilà, cette semaine on a choisi de vous parler de séries comics qui portent le titre Gotham dans le nom Gotham dans leur titre. C'est pas pour rien évidemment si on vous parle de ça cette semaine, c'est très lié à la série télé. Donc on va voir justement aujourd'hui les aspects comics et puis ben une fois que aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui la série n'est pas sortie donc on peut pas vous dire de quoi ça se rapproche le plus. On pourra en parler dans l'émission série et faire un comparatif avec tous les comics dont on vous parle aujourd'hui. Et on va commencer peut-être par celui qui s'éloigne le plus de la continuité, comme ça on en sera débarrassé puisque ça se passe dans un Elseworld, c'est Gotham by Gaslight. Le one-shot de Brian Augustine et Mike Mignola, qui est sorti en 1989 et que Elvire a lu.
J'ai lu le
Ou
début,
commencé,
oui.
oui. Quelqu'un d'autre l'a lu?
Non.
Ok, bah alors on est tous les deux
Moi,
Elvire.
oui.
Ouais?
Oui.
Bon alors Elvire, je te laisse raconter le départ et puis. On enchaînera.
Oui, déjà, le départ, ça commence pas à Gotham, on
Non.
commence l'histoire en Europe,
Oui.
parce qu'on est dans les années 1800, parce que Bruce Wayne rencontre Freud, le docteur Freud.
Quoi?
Donc, oui,
Oui, c'est un
oui,
Elseworld, hein. Faut vraiment se mettre ça dans la
Ah,
tête,
d'accord.
c'est.
Et donc, voilà, il parle, commence à, comment dire, parler d'un plan qu'il a préparé depuis des années, depuis qu'il est en Europe. Et donc, il prend le bateau pour retourner dans sa ville. Il est parti 5 ans, je crois, de
Ouais, de
Gotham,
Gotham,
10
ouais.
ans,
Oui.
5 ans. Et moi, j'ai arrêté où il revient dans la ville et il retrouve Alfred et son costume de Batman. Mais on sait qu'il prépare un truc, il a
Voilà,
un
donc il
dessin
fait.
pour cette ville
C'est ça.
et pour. Voilà.
Donc
Mais
il fait
quoi,
la.
je vous dirai pas parce que je ne le sais pas. Donc,
Il fait la traversée avec Jake, qui est son oncle.
Oui, c'est vrai,
Qui.
mais
Voilà.
je connaissais pas.
Et lui, on sait pas trop pourquoi il est là, à quoi il va servir dans l'histoire. Bon, on va pas vous spoiler si vous n'avez pas lu, hein, on va vous laisser découvrir. C'est une histoire courte, hein, ça fait juste 48 pages, 49 pages, je crois. Donc c'est...
50.
Voilà, c'est un tout petit one shot, un peu genre Killing Joke et The Man Who Loves pour Joker, enfin voilà.
Mais oui, mais c'est perturbant au départ. Moi, je savais pas. Ben, j'ai vite compris.
Oui,
mais
vite,
je
on pas comprend que vite que c'est un Elseworld quand on voit que le professeur Freud est là. Et...
Mais même la façon dont les bulles sont écrites, j'ai retrouvé
oui.
des typographies à la Tintin. Ça m'a fait penser à
ouais,
Tintin,
ouais,
certaines
ouais,
typos.
C'est un côté un peu vieillot, c'est vrai.
Il y a Milou aussi, non?
Non.
Pour le moment, non.
Et donc, quand il retourne sur Gotham, il va voir que sa ville est en train de vivre quelque chose que lui, il a bien connu à Londres, puisqu'il y a des prostituées qui se font éventrer.
Oh non.
Et donc, voilà, forcément, Jack l'éventreur, lui qui a vu ça sur Londres, voilà, il se doute que le bateau ne l'a pas ramené que lui de Londres, il a peut-être aussi ramené Jack l'éventreur. Et donc ça va être une enquête autour de ce personnage-là, de ce mythe londonien-là qui va avoir lieu sur Gotham. Et c'est un peu le Zero Year de si Batman était né au 19e siècle.
Voilà.
Au final. Donc c'est...
Et il devient Batman.
Ah mais oui, dès qu'il
il
arrive.
Il est déjà Batman.
En fait, quand il arrive, la première chose qu'il demande à Alfred, c'est est-ce qu'elle est toujours là, est-ce qu'elle est prête, et il parle de sa cape.
C'est plus un Year One en fait.
Oui, c'est enfin, le Year One. C'est un peu, ouais. Pour moi, ouais. C'est un What If. C'est un Year One. Et si ouais. Bruce Wayne avait vécu au 19e, quoi.
Mais en lisant ça, je me suis posé la question. Peut-être que je le verrai quand je lirai la suite. Mais les gens, ils vont pas se dire pendant 5 ans, il n'y avait pas Batman. Et Bruce Wayne revient.
Et bim.
Et bim, il revient.
Mais justement, il y a le fait qu'ils reviennent aussi en même temps que Jack l'Éventreur, qui était à Londres et lui était à Londres, va peut-être créer autre chose, justement.
Okay. Oui. Mais on n'en dit pas plus.
Voilà. voilà, un Elseworld intéressant qui nous propose une version de Gotham, certes d'un autre siècle, mais qui rappelle quand même.
Oui.
Enfin, il y a le même aspect un peu pourri, un peu corrompu. Même si ça se passe 200 ans en avant, Gotham est la Gotham qu'on connaît, quoi.
Il y a les mêmes codes.
Ouais. On va revenir dans la continuité classique. Peut-être avec Gotham Central, qui est quand même l'histoire la plus importante et celle dont on pense que s'inspire la série télé Gotham, pour une partie en tout cas. Gotham Central, c'est une série en 40 numéros qui y sont parus de décembre 2002 à février 2006, avec à leur tête Greg Rucka, Ed Brubaker et Michael Lark. Rien que ça. Est-ce que tout le monde a au moins commencé Gotham Central?
Oui. Moi j'ai lu
Etienne.
Jusqu'au 8, je crois.
Arnaud.
Non, pas encore.
Et Clément?
Non.
Non plus. Eh bien, ça sera donc entre Étienne et moi cette fois. Étienne, écoute, vas-y, tu vois.
Alors, donc Gotham Central, en fait, c'est toujours dans l'univers de Batman, bien sûr, mais en fait, on centralise l'histoire sur le GCPD, donc la police de Gotham, en fait, et on retrouve des inspecteurs qui font des enquêtes. Avec l'aide de Batman, plus ou moins, mais c'est vraiment centré sur les inspecteurs. Et ça donne une dimension qu'on n'avait pas trop vue, enfin, qu'on voit très rarement dans cet univers, en fait. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal.
Ouais.
Enfin,
ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la ville de Batman et c'est comment les flics mènent leurs enquêtes, en sachant très bien que s'ils n'ont pas terminé leur enquête, ils le disent à un moment, si on n'a pas bouclé cette enquête à la nuit tombée, c'est Batman qui va le faire à notre place, et encore une fois, ils vont un peu perdre la face, quoi. C'est un peu un combat d'honneur, en fait. C'est une question d'honneur pour eux de réussir à mettre des mecs sous les verrous sans avoir besoin de l'aide de Batman, quoi. Et on voit bien que le simple fait d'allumer le bat-signal, ça leur coûte.
Ouais, de la fierté.
On n'est pas capable de le faire tout seul et on va demander l'aide à un hors-la-loi, quoi.
Et d'ailleurs, en fait, ils n'arrivent jamais à l'arrêter. Enfin, ils n'arrivent jamais à arrêter le méchant eux-mêmes. Il y a toujours l'intervention de Batman à la fin.
De manière plus ou moins discrète, plus ou moins marquée. Mais effectivement, Batman arrive toujours à un moment ou à un autre. Alors, on voit juste une ombre passer et puis nous, on comprend. Voilà, on comprend
ça
que
dure 2-3 vignettes et hop.
Et voilà. au niveau de l'intrigue, donc ça commence par deux flics qui
ont reçu un tuyau en fait sur un kidnapping. Il me semble, ouais,
c'est
un kidnapping.
Ça, c'est ça.
Et en fait, ils tombent sur Mr. Freeze et ça se passe très mal.
Ça va être glacial.
Puisqu'on peut le dire, oui, ça va être glacial. Oh, Clément.
Oh.
Il pensait que ça s'est passé inaperçu. Non, non, non. Je vais même... Tu vois, quand je ferai le montage, je vais même juste augmenter le son de ta parole juste sur ce passage-là.
Oublie pas de mettre aussi, tu sais,
le...
comment, les tambours là.
Peut-être. donc voilà, effectivement, ça se passe très mal puisque pour continuer dans ta veine, Clément, Mister Freeze refroidit un des deux coéquipiers.
Oh.
Et le découpe en morceaux. Voilà.
Ah oui, quand
Sympa.
Il découpe le glaçon en morceaux et
Ouais.
voilà. Donc le ton est donné direct. Et là, est-ce qu'on appelle Batman ou pas pour retrouver Mister Freeze ou est-ce que pour une fois on essaye de faire les choses par nous-mêmes, sachant que c'est quand même un coéquipier qui a été buté, donc question d'honneur encore plus quoi. On a vraiment envie de le mettre sous les verrous et donc ça commence comme ça et puis cette histoire de kidnapping va nous suivre quand même pendant une bonne partie de du premier tome qui est sorti en VF chez Urban, donc des 10 premiers épisodes, puisque ça va durer 5 bons épisodes cette histoire-là. Et puis la deuxième partie, à partir de l'épisode 5, deuxième arc, la deuxième enquête concerne René Montoya, qui est peut-être un nom connu, même si vous ne lisez pas cette série, parce que c'est quand même un flic important à Gotham, maintenant. Et c'est une histoire autour d'elle, ouais, toute une machination autour d'elle, qui va commencer par son outing.
Ouais.
Une photo d'elle en train d'embrasser sa compagne qui est placardée au GCPD et qui est envoyée à ses parents. Et puis.
C'est quand même assez rare dans l'univers des comics d'aborder ce thème. Je trouve qu'ils ont une prise de risque et du coup, je sais pas si ça a provoqué des soucis à l'époque, mais bon, enfin, moi j'ai trouvé que c'était bien amené. C'est.
Non, puis c'était vraiment dans le ton de la. Enfin,
Ouais.
la façon dont c'est amené, c'est vraiment dans le ton de la série. Et finalement, enfin, le personnage de René, on l'imagine même pas autrement en fait.
Ouais.
Enfin, c'est voilà, c'est aussi l'adresse de Greg Rucka et de toute l'équipe, voilà, qui nous propose un personnage homosexuel dans la police de Gotham. Mais finalement, elle a été outée. Mais on aurait pu révéler n'importe quoi de son passé, qu'elle avait un cadavre dans le placard ou je sais pas quoi. Ça aurait été traité de la même manière. Et c'est ça qui est appréciable dans cet arc-là, c'est que c'est voilà, on révèle un de ses secrets qui c'est et puis voilà, bah René va être embarqué dans une sombre affaire de meurtre, va être vraiment traîné plus bas que terre par l'ennemi qui tire des ficelles dans son dos et on vous laisse découvrir la suite et puis voilà, il y a à peu près une dizaine d'enquêtes sur toute la série qui sont comme ça, qui mettent vraiment
Ouais,
les
j'espère que la série sera de cette même veine que le comics, quoi. Enfin, que ce comics-là, tout du
Bah,
moins.
peut-être la partie, enfin, la série Gotham, peut-être la partie consacrée aux flics, mais après
Oui,
toute la partie
bah oui.
consacrée aux gosses, malheureusement.
Ouais, ça va être compliqué.
On peut pas dire qu'on sera là-dessus. Plus récemment, Scott Snyder s'est fait la main sur Gotham, après avoir proposé Black Mirror. Il s'est attaqué à sa version des origines de la ville, et déjà là. Enfin voilà, déjà là, il avait ce petit côté, voilà, c'est moi qui écris les origines, même pour la ville, quoi. Petit côté un peu agaçant qu'il peut avoir maintenant, là, d'avoir la main mise et Batman, c'est moi. Déjà là, on pouvait presque le sentir arriver. Donc, il nous a proposé Gates of Gotham, une mini-série en 5 épisodes, donc par Scott Snyder, Kyle Higgins et Trevor McCarthy, qui a été publié juste avant le reboot des New 52. Enfin voilà, ça s'est arrêté le mois avant. Il a dû boucler un peu vite d'ailleurs pour terminer avant que les New 52 commencent. Qui a lu Gates of Gotham?
Moi.
Le début.
Le début. Et ben Arnaud, Elvire, peu importe.
Bah, j'ai déjà fait un, donc
Alors Arnaud.
vas-y après.
Bah, comme tu disais, c'est la deuxième histoire de Snyder. Donc on voit à la fois le présent avec un nouveau méchant qui s'appelle l'architecte, je crois, qui essaie de se venger des familles puissantes de Gotham, donc les Wayne, les Cobblepot
Elliot.
et la famille Elliot. Donc on suit dans le présent cette vendetta. Et dans le passé, on assiste à la création de Gotham avec les frères Gates,
Voilà.
justement.
Donc les frères, mince, comment ils s'appellent tous les deux? Nicolas et Bradley Gates. Donc d'où le titre, ouais, effectivement, tu le soulignes Arnaud, les Gates of Gotham, c'est finalement pas forcément ce qu'on pense. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pour moi la construction parallèle
Oui.
entre
Qui
le.
se rejoint au bout d'un moment.
Ouais.
Plus ça avance, plus l'étau se resserre et les deux mondes, entre guillemets, les deux époques se rejoignent.
Ouais.
Entre
Et
guillemets.
c'est vraiment
Il y a un trait.
bien fait, et même visuellement, quoi. C'est les passages dans le passé avec les petits cadres autour des vignettes, je trouve ça super, super joli. Arnaud, t'allais dire?
Là, ça, je voulais dire visuellement, c'est vraiment travailler. On passe de l'un à l'autre assez facilement.
Ouais, c'est à peu près moitié-moitié dans chaque épisode. Bon, vers la fin, on est beaucoup plus dans le présent parce que tout ce qu'on avait à découvrir, sauf la dernière révélation sur le passé, voilà, on le connaît. Donc, vers la fin, on est plus vraiment dans le présent. Mais ouais, toutes ces parties qui pourraient être chiantes, hein, franchement, hein, ces parties dans le passé, ça aurait pu être super chiant. Il
Pas du
n'y
tout.
a pas beaucoup de dialogue. C'est en fait, on lit un journal, on lit le journal d'un des deux frères Gates. Et ouais, la mise en scène, tout ça, ça le rend vivant, alors qu'en fait, c'est juste un récit narratif, quoi. Un
Je voudrais
avis,
juste
vas-y.
ajouter pour ceux qui, comme moi, commencent dans les comics, c'est pas très abordable parce qu'il y a beaucoup de personnages que moi je ne connaissais pas.
Ouais.
Red Robin.
Ah
Et
oui.
il m'a fallu jusqu'à la fin pour comprendre que le Batman qu'on voyait, ce n'était pas Bruce Wayne.
D'accord.
Et moi, j'étais assez. Parce qu'il parlait de Bruce Wayne, mais à la troisième personne, je me suis dit, Batman ne parle pas lui à la troisième personne. Enfin, j'espère pas pour
Encore,
l'instant.
ouais. Ouais, donc
Encore.
c'est juste avant New 52, donc effectivement, c'est juste avant le retour de Bruce Wayne sous le costume. Bruce Wayne est là encore, à l'époque de cette histoire, il est en train de s'occuper de Batman Incorporated. Et du coup, c'est effectivement.
C'est Dick.
C'est Dick
Dick
qui est,
Grayson.
voilà, Dick Grayson qui est sous le
Parce
costume de
qu'il
Batman.
y a 36 000 Robins dans cette histoire.
Ouais. Oui.
Donc, et il y a même une. Il y a Cassandra, c'est.
Black
N13.
Cat. Cassandra.
Black Cat.
Black Bat.
Black Bat, ouais, c'est ça, Cassandra
Black
Cain.
Bat, oui.
Donc, voilà, c'est peut-être pas. Enfin, c'est un, ouais, c'est un one-shot, entre guillemets. Mais pour ceux qui commencent, c'est un peu perturbant de voir que Batman n'est pas Batman. Enfin,
Ouais.
que c'est interchangeable, en fait.
Tu l'as lu en VO, toi?
Oui.
Ouais, moi j'ai la version VF. Alors il y a deux versions VF qui sont sorties chez Urban. Une première en kiosque, c'était le Batman Saga hors série numéro 1, qui était juste un, voilà, un magazine kiosque classique. Et puis il y a la version des 48 heures de la BD, la 2014, qui était offerte dans les librairies. Voilà, c'est cette histoire qui a été offerte. Et au départ, sur cette version, les deux premières pages sont justement consacrées aux présentations de tous les personnages. Donc
OK.
Urban fait là vraiment le boulot comme ils font d'habitude, avec un paragraphe sur chaque personnage, expliquer qui est dans l'histoire et où est-ce qu'ils en sont à ce moment-là de l'histoire, quand l'histoire commence. Donc du coup, ouais, c'est peut-être juste ces deux pages-là, toi, qui t'ont manqué pour vraiment profiter de.
Voilà. Parce que bah, j'ai dû faire ça un peu au fur et à mesure, mais entre Damien, Dick, Red Robin, le vrai Robin, enfin bref.
Ouais.
Mais bon, voilà,
Puis
c'est
surtout
ça, c'est
que.
juste pour ceux qui commencent. C'est pas forcément abordable, même si c'est une très bonne histoire, mais s'il y a ces deux pages-là, tant mieux.
Mais après, moi, c'est vrai que je connais pas mal l'univers de Batman de cette époque-là, surtout. Mais j'ai été aussi perturbé parce que graphiquement, quand même, on les reconnaît pas forcément. Hein. Dick, c'est pas forcément le Dick Grayson qu'on voit dans les autres séries au niveau du dessin, quoi. Je sais pas toi, Arnaud, si ça te l'a fait aussi, mais. Il a l'air d'un genou, quoi, à côté de.
Bah, j'avais lu Black Mirror juste un peu
Ouais.
avant, donc je savais qu'à ce moment-là, Batman, enfin, il n'y avait pas Bruce Wayne et que c'était Dick qui le remplaçait. Donc physiquement, j'ai reconnu le même personnage
D'accord.
que dans Black Mirror, donc ça m'a pas gêné.
Alors que moi, je savais que c'était lui, mais visuellement, j'avais quand même du mal à le reconnaître, quoi. Mais bon, après. Et sur les. On est d'accord pour dire que quand même Snyder, voilà, il était pas loin d'être au top de ce qu'il est capable de faire sur cette histoire.
Ah oui, c'est.
C'est même pour moi bien mieux que ce qu'il fait sur les New 52 en ce moment.
Ah, oui, actuellement,
j'ai
oui.
du mal à comparer, je suis très loin. Donc, mais après, comparé à. C'est encore différent de la cour des hiboux. Là, on sent vraiment que
Oui.
c'est les prémices de ce qu'il va instaurer dans la cour des hiboux.
Ouais, parce qu'il commence déjà à parler des secrets qui se cachent dans la ville, effectivement, et puis
Ah,
juste le mois d'après, il commence la fameuse saga des hiboux, où là, il va encore plus loin dans l'histoire de la ville, et c'est presque là qu'il est le meilleur, en fait, quand il nous révèle des choses sur la ville, quand il nous parle de Gotham. C'est pas forcément quand il nous parle de Batman qu'il est le meilleur.
Il s'est fait dans la cour des hiboux, d'ailleurs.
Oui, voilà. Parce que il a, je pense, besoin, et c'est aussi pour ça qu'il est aussi bon dans American Vampire. Je pense que tous les récits un peu ancrés dans l'histoire, avec un grand H, c'est là où il est le meilleur, quoi. Tous les trucs contemporains qu'il nous fait actuellement avec le Joker et compagnie, c'est beaucoup moins bon que les choses qu'il va ancrer dans le passé et où il va faire des allers-retours comme ça entre deux époques. C'est là pour moi où il est excellent.
Oui, c'est très intéressant ce que dit Arnaud. J'avais pas fait ce que je suis en train de lire La Cour des Hiboux. Et voilà, que c'est le prémisse de La Cour des Hiboux. Et c'est très intéressant de faire le lien entre les deux.
Ah oui.
Pour ceux qui lisent La Cour des Hiboux, ce serait très intéressant de découvrir Gates of Gotham. Et
Je pense que lire les
après,
deux à la
j'ai.
suite, ouais, ça peut être
Voilà.
super.
Après, moi, je connais pas trop le travail de Snyder, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Quand il parle de Gotham, La Cour des Hiboux, bon, ça. Je suis sur le cul quand je lis ça. Ça
Oui, c'est génial, oui, bien sûr.
c'est génial. Et là, j'ai retrouvé la même patte. Donc voilà, lire les deux en parallèle, en parallèle, l'un avant l'autre, comme l'a dit Arnaud, c'est très intéressant.
Donc, dernière série qui porte le nom de Gotham dans son titre, qui est une série un peu particulière qui nous partage un petit peu, on n'est pas tous le même avis sur cette série. C'est une série digitale de DC Comics en 24 numéros qui s'appelle L'île Gotham par Dustin Nguyen et Derek Friedolfs. Les épisodes sont sortis entre octobre 2012 et décembre 2013. Et un peu, en fait, enfin, pour moi, c'est un peu le long Halloween version fun et cartoon, quoi. C'est-à-dire que, enfin, juste par le fait que chaque épisode se centre sur une fête du calendrier. Sauf que là, à chaque fois, c'est une occasion de juste de se marrer dans l'univers de Gotham, avec les personnages qu'on a l'habitude de voir. Qui a commencé, ou qui en a lu, je sais ce que, un ou deux, parce que finalement, c'est très indépendant les uns des autres, ces histoires-là. Pas
J'en
du
ai
tout.
lu un, moi.
Oui, j'en ai lu un.
T'en as lu un. Tu as lu celui sur Halloween, j'imagine, le premier.
Oui, le premier.
Elvire aussi.
Merci.
Ouais. Eh ben Elvire, je sais que t'as pas trop aimé, donc vas-y.
Ah non, j'ai pas aimé du tout. Les dessins, ça me brûle les yeux. Mais bon, après ça, c'est très personnel, mais ça me brûle les yeux. Et je trouve que c'est cliché envers les femmes. Franchement, ah, ça m'a dégoûté.
Alors, je me rappelle, ça fait un moment que je l'ai lu celui-là, donc c'est quoi le passage en question?
Il y
Parce que
a des
je me
petits
rappelle pas du tout.
animaux. Elles vont sauver des petits animaux, parce que bah, voilà, les femmes, ça peut pas sauver autre chose, ça peut pas être pris au sérieux, c'est des petits animaux qu'on va sauver, hein, parce que c'est ce qu'il y a à notre taille. Hein. Et puis après, ça parle de gâteaux, parce que oui, les femmes, ça adore les cupcakes. Hein. Regarde, oh là, oh, the best lollipop in the whole world, chocolate, caramel, coconut, wow. Voilà. Voilà. Non,
Je
on
me
va dire
rappelle
que
pas du tout de ce passage, c'est dingue.
C'est vraiment.
Bah oui, enfin, en tant
Voilà,
qu'homme.
ils ont fini là leur mission et maintenant voilà comment dire leur récompense c'est des gâteaux et du chocolat.
Ah
Super.
oui, c'est quand ils sont dans le resto.
Ah
Ah et puis
d'accord. C'est Harley Quinn et Ivy, ça.
c'est gluten
Oui, il y en
free
a
là.
plusieurs.
Ouais.
D'accord.
Il y a plusieurs méchants.
Oui, il y en a une que je connais pas, celle en vert.
Eh ben c'est Poison Ivy.
Ok, il y a Selina, Poison Ivy et Harley Quinn, pardon.
Ouais.
Non, bah après c'est peut-être, j'ai pas lu les autres, donc c'est peut-être la même. Si c'est tourné autant en dérision quand c'est des personnages masculins, ok.
Oh oui, ils ont tous le deuxième épisode, c'est sur le pingouin.
D'accord.
C'est l'épisode de Thanksgiving, donc c'est le pingouin en fait qui. Bah, on sait que le pingouin adore les oiseaux, hein. Et à Thanksgiving, on mange de la dinde, donc le pingouin va, avec toute une armée de pingouins, va aller libérer un entrepôt, on va dire, une ferme de dinde sous batterie. Il va aller les libérer, et pendant la parade de Thanksgiving, il va se faire un peu comme le cheval de Troie dans un des chars, et le char va exploser, et là, il va y avoir toute une armée de dindes qui va déferler sur Gotham. C'est la révolution des dindes, enfin voilà,
Mais
c'est.
de ce que tu m'en dis, c'est drôle. Alors que là, je suis dans les dernières pages. Alors c'est oui, on pourrait continuer à faire ça, ou bien on pourrait faire du shopping et aller acheter des chaussures et puis des. Ça, pour moi, ce n'est pas drôle. Enfin, ça
Bah
joue sur
oui.
des clichés, foncièrement des clichés qui m'énervent. Donc non. Et puis les designs, j'aime.
Ah bah
Non.
le design des
Voilà.
personnages est
Non,
particulier.
on pourrait passer autour. Tu vois le truc un peu Hello Kitty acidulé, pourquoi pas. Mais si ça jouait pas autant sur les clichés, voilà, non.
Ouais, c'est.
Faudrait que je lise les autres, mais en tout cas celui-là sur les super-héroïnes, non, non,
Ok.
je lis non.
Arnaud, t'en as pensé quoi, toi, de celui d'Halloween? Le premier, là.
Le début est sympa. Contrairement à Vierge, elle n'était pas gênée par les dessins. C'est gentil, c'est mignon. Mais au bout d'une dizaine, quinzaine de pages, c'était trop répétitif et trop niais. C'est sympa, mais sans plus.
Bah,
C'est
c'est
pas quelque
cartoon, hein,
chose.
c'est jeune public pour
Voilà,
moi.
c'est cartoonesque, mais c'est justement, ils vont pas assez dans la dérision, je trouve, pour que ce soit vraiment drôle et qu'on ait envie d'enchaîner les épisodes.
Bah, le premier, c'est vrai que, enfin, du souvenir que j'en ai, le Halloween, effectivement, il pose des idées intéressantes, mais il les creuse pas jusqu'au bout. Peut-être parce qu'ils ont envie de présenter trop de personnages dans l'histoire, alors que dès le deuxième, on se centre vraiment sur le pingouin, avec cette histoire des dindes, enfin voilà. Robin, Damian qui prend la trompette et qui, comme le joueur de flûte, amène les dindes à sa suite. Voilà. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a une dinde qui a un peu le statut de bad cow puisque Damian adopte une dinde. Enfin voilà, c'est vrai quand on se centre sur un seul méchant, sur du coup, on va plus creuser les idées et c'est peut-être plus intéressant effectivement que le premier qui est un peu fourre-tout. Où ils ont voulu montrer un peu tout le potentiel de leur série et de leur style, et ils sont peut-être un peu pris les pieds dans le tapis, c'est possible. C'est possible.
Oui, c'est pas une bonne intro pour la série.
C'est
J'ai
pas le
pas lu le
meilleur,
reste,
c'est pas
mais
le
c'est
meilleur, c'est
pas.
clair. Après, c'est. Voilà, à partir des. Enfin, en tout cas, tous les suivants sont vraiment excellents et très très drôles. Enfin, moi, il y en a plein qui m'ont fait beaucoup rire. Mon préféré, c'est vraiment celui avec les dindes, mais moi,
Il y a pas des poneys aussi?
Je te laisse découvrir par toi-même. Bien, allez, on va tourner la page de Gotham dans les comics pour dire rapidement un mot sur Gotham City à la télé et au cinéma. Et puis, bah, peut-être chacun parler de la version télé ou ciné de Gotham que vous préférez et pourquoi.
Vite fait, je vais dire le dernier Nolan.
Ouais.
Parce que vraiment, donc on peut parler un peu de l'histoire, on va pas spoiler. Le Batman a disparu de la ville. Et du coup, c'est aux habitants de s'organiser. C'est Gordon et d'anciens flics qui sont obligés de s'organiser pour essayer de trouver un plan et de se débarrasser de Bane et de son équipe. Et de voir comme ça les habitants qui se liguent pour vraiment dégager la vermine et voir. En plus, on visite beaucoup la ville avec ce temps qui se balade, et t'as Gordon qui les suit, qui chronomètre, tout ça. On visite un peu la ville, et même avec cette scène à la fin sur le parvis de l'hôtel de ville avec Batman, Bane, toute la troupe. Et puis même, il y a ce plan à la fin sur le pont, etc. Je trouve que. On voit plus la ville dans ce film-là, elle est plus mise en avant.
D'accord. Bah c'est ouais, c'est vraiment.
Celle où elle prend une certaine importance. On va pas dire qu'elle a beaucoup d'importance dans le film, mais elle prend plus d'importance que dans les autres films,
Oui, c'est
si je me
comparable
souviens
à
bien.
No Man's Land dans les comics, hein. C'est vraiment la ville est dans le même état et vit un peu les mêmes choses. Elle est
Voilà.
aux mains des méchants et compagnie. Enfin voilà. Ok. Étienne, t'as préféré?
Bon, ma préférée, oui, c'est. Oui, enfin, en fait. Dans les derniers films de Nolan, on voit beaucoup plus Gotham City, mais enfin, c'est parce que c'est un film où on nous montre la ville, et donc forcément, c'est clairement le film qu'on préférera pour voir la ville. Après, si tu regardes les séries qu'il y a eu dessus, c'est intéressant aussi, mais on n'en voit pas autant que dans le film au cinéma, quoi. Donc. Oui, le Nolan sera forcément la ville préférée, enfin, là où on en voit le plus et ça nous fait plus plaisir. Mais
Parce que
bon,
je.
pardon, excuse-moi.
Vas-y, non, vas-y, vas-y.
Pour en
Je t'en prie.
revenir, le mieux, ça reste le jeu vidéo où là on a l'impression d'être quelqu'un et de voir les bâtiments sous les différents angles. Bon, c'est une version particulière, mais ça fait plaisir, par exemple, d'aller à la Cream Alley. Là, il y a eu même un moment de. Où on peut se recueillir en fait dessus, on arrive avec Batman, et Batman met un genou à terre et il y a une
Ok.
musique particulière qui se met en route, et là ça fait encore plus plaisir quoi.
D'accord. Clément, ta version de Gotham préférée, c'est une de celles-ci ou c'est encore une autre?
Bah, c'est compliqué parce qu'après, Les versions bretonnes sont diamétralement opposées que ce soit celles de Nolan, de Burton ou même de Schumacher, mais bon, ça n'existe pas. Schumacher ou Schumacher?
C'est pas grave, c'est un mot interdit.
Ouais. Peu importe les deux, on a le droit de me massacrer. Et voilà, après, si je dois me focaliser juste sur les films, je dirais naturellement Nolan, parce qu'on a quand même, on voit bien tous les aspects de Gotham. Et je trouve d'ailleurs que le premier film représente très bien Gotham, ceci dit, étant donné que on voit vraiment comment dire, la noirceur de la ville, tout ce qui ne va pas bien dans la ville. Je trouve que dans le Batman Begins, c'est vraiment tout cet aspect-là. Et après, c'est vrai qu'avec The Dark Knight Rises, ouais, c'est ça. On voit un autre aspect, mais voilà, je trouve que Nolan, du coup, profite bien et exploite vraiment bien Gotham. Maintenant, c'est vrai que le Gotham des jeux vidéo offre une vision bien différente, peut-être plus proche des comics. Ça peut peut-être se rapprocher un peu de Nolan, mais c'est compliqué, quoi. Je dirais que les meilleures visions, à mon avis, de Gotham, par celle que j'ai préférée, c'est Nolan et c'est dans les jeux Batman. Après Burton, j'ai vraiment du mal parce que de toute manière, dans Burton, dans les films Batman, a quand même mis bien sa patte. C'est de mémoire, c'est un peu trop gothique à mon goût, le style Burton.
Oui.
Donc, je trouve que ça se détache beaucoup trop même de l'univers d'origine. Donc, je pense que je serais entre les films de Nolan ou l'univers de Rocksteady.
Je suis pas d'accord avec Clément. J'ai pas l'impression que la ville soit vraiment mise en avant dans Batman Begins. Comme tu disais, tu trouves qu'on voit la saleté de la ville, sa noirceur. J'ai plus l'impression de ressentir ça justement dans les Batman de Burton, avec ce style très gothique, très appuyé, ce style de Burton qu'on trouve dans la plupart de ses films.
Ouais. C'est vrai que Burton, avec le passage du pingouin là,
Ah oui, tu l'as eu. Ah.
c'est ouais.
Quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de départager ces deux visions bientôt. Elvire, est-ce que tu as une version dans tout ce qu'on a pu voir sur les écrans de Gotham
Bon,
qui
tout
te
a
plaît
été
plus?
dit, surtout par Arnaud, en fait. Moi, c'est dans le dernier film de Nolan, parce que vu que, il me semble, les ponts sont coupés, les ponts sont explosés. On a vraiment un huis clos dans la ville. Et ouais, et puis je vais pas répéter ce qu'a dit Arnaud, mais c'est dans le dernier avec ce huis clos
D'accord.
dans Gotham. Et j'ai oublié de le dire quand on a parlé des séries, mais
Vas-y.
pas des séries, mais des comics. Mais aussi dans Gates of Gotham, pour moi, elle est très bien représentée parce que elle a on lui donne le genre féminin. Il utilise le pronom she
Oui,
quand il parle de
c'est...
Gotham. Et voilà, on voit, c'est que c'est dans cette série, on voit, dans cette série, dans ce comics, qu'on voit vraiment que c'est un personnage en tant que tel, et pas
Ah,
juste un lieu où se passe l'action. Voilà.
pour ma part, c'est la version de la série animée que je vais garder en tête parce que elle a voilà, une saveur particulière. Ouais, c'est toujours cette fameuse banque et puis l'usine du Joker.
Ouais.
Mais elle est pas
La
tant
batte.
utilisée que ça.
Ouais, mais dans le peu d'épisodes où on la voit, enfin voilà, il y a... En fait, on passe par tous les endroits, le parc de Poison Ivy, tout ça, enfin tous les endroits qu'on peut voir dans les comics, ces endroits mythiques, etc. Enfin, on les voit dans cette série, quoi. Dans les films, on a à chaque fois qu'une partie et on ne voit pas tous ces lieux importants. Donc du coup, voilà, pour avoir moi, la vision complète de la ville, je l'ai plus dans la série animée. Après, Clément, je trouve intéressant ce que tu disais. Moi, je suis effectivement plus séduit par la version de Batman Begins de Gotham que par la version. Que par la version Chicago de Dark Knight Rises.
Qui est même présente, la version que tu dis de Chicago, est même beaucoup plus présente dès The Dark Knight, en fait.
Ouais, en fait, il y a une coupure. En fait, on a l'impression que c'est plus la même ville. Alors, certes, on a rallumé les lumières par rapport à
Et
Batman Begins, mais le fait d'allumer la lumière, enfin, change pas autant la ville que ça.
après, je pense que c'est sûrement voulu, c'est certainement voulu de la part de Nolan.
Oui.
Dans Batman Begins, c'est Batman qui débute, il est dans les Narrows, et donc voilà, il n'a pas encore pu vraiment avoir un effet positif sur Gotham. Après, dans The Dark Knight, c'est quand même 4 ans d'écoulé, je crois. Donc là, ça peut se comprendre aussi. Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'on voit plus les différents aspects de Gotham dans Batman Begins.
En tout cas, ouais, la partie qui est explorée dans Batman Begins me plaît plus de la façon dont elle est. Bref. Voilà. Voilà, on vous a suggéré pas mal de séries. Je vous avais un peu notre avis sur plusieurs histoires. À vous d'explorer maintenant cette ville en même temps que vous pourrez l'explorer dans la série télé sur la Fox. On va maintenant passer aux comics de la semaine. Et donc pour conclure, le comics de la semaine, cette semaine, ce sera Arrow. Arrow, l'adaptation numérique, donc la saison 2 et demi. Donc c'est une histoire qui se situe entre la saison 2 et la saison 3 de la série. Et il y a deux numéros qui sont sortis pour le moment. Elvire, tu les as lus?
Oui.
Tu veux nous en parler vite fait?
Je peux pas en dire grand-chose parce que moi j'en suis tout le temps. J'ai pas fini la saison 1 de Arrow.
Ah, c'est vrai.
Oh là là.
Donc moi j'ai découvert Flash, il me semble qu'il y avait le Flash dedans. De ce que je peux en dire, de ce que j'ai pu lire dans différents comics, c'est pas une histoire qui transcende. Hein. Ça révolutionne rien du tout. C'est une histoire basique. Là j'ai lu parce qu'il fallait le lire, mais je vais pas continuer de moi-même. Ça m'a pas donné envie de continuer. Voilà.
Ok. Qui l'a lu ce...
Moi j'ai lu les deux.
Absolument pas.
Alors vas-y Étienne.
Ben oui, donc on
Déjà
retrouve.
de quoi ça parle déjà, voilà.
Ah d'accord. Donc en fait l'histoire commence directement avec Green Arrow. Avec comment il s'appelle déjà? Ça, le en rouge là.
Arsenal, enfin il c'est pas
Ouais,
pour
Ars
Arsenal,
oui c'est pas
c'est Roy
Arsenal,
Harper.
mais
Oui, Roy Harper. C'est
ouais,
Roy.
Roy Harper,
Oui, c'est
oui,
vrai.
qui devient le sidekick,
Ouais.
le Robin, on va dire, de Batman.
Ouais.
Et en fait, ils sont sur un avion. Ils abordent un avion pour empêcher un trafic. Et du coup, bon, bah, ça se passe pas très bien. Roy Harper, il se prend une balle. Du coup, Green Arrow, il est obligé de faire le travail un peu vite et de sauter. Dans les airs pour récupérer Roy Harper.
Ouais. Ça n'a pas l'air grandiose.
Non.
Ouais, bah c'est très court.
Ouais.
C'est.
Bah c'est super court, ouais. C'est vraiment une
Ouais.
histoire qui sort en digital chaque semaine. C'est un weekly qui. Enfin, je crois que ça alterne avec Flash saison 0.
Oui.
Donc c'est une semaine Arrow, une semaine Flash. C'est censé faire le pont entre la saison 2 et la saison 3. Est-ce que, Étienne, t'as cette impression, toi, quand tu lis? Moi, pas du tout.
Bah oui, on essaye de nous expliquer que Roy Harper il débute. Il a peut-être aidé à la fin de la saison 3, la fin de la saison 2, pardon, qu'il était possible de faire des choses, mais que là maintenant, bon, il n'est pas encore entraîné du tout. Du coup, est-ce qu'on va retrouver un Roy Harper entraîné au début de la saison 3? Enfin, ouais. Pour l'instant, la transition est pas transcendante, quoi.
Ouais, et puis le truc qui me dérange, c'est que c'est censé se passer entre les deux saisons, et à la fin de l'épisode 2, on voit un vilain, enfin, normalement son compte est réglé à lui. Celui qu'on voit sur la...
Non,
Non, il est
oui.
pas...
Non, il s'en sort, lui. Enfin,
D'accord.
il se sauve parce que c'était le comment, le sbire de Deathstroke.
D'accord. Ouais, je pensais que son compte était réglé, mais peut-être pas
Ouais,
du tout.
mais bah non. Enfin,
Donc du coup,
apparemment non.
ça m'avait un peu gêné.
Ouais.
De toute façon, on peut en parler, les autres n'allaient pas lire. De toute façon, Brother Blood.
Ouais.
Ah,
Sérieux?
tiens.
Brother Blood qui est là à la fin, c'est la dernière vignette de l'épisode 2, là, le dernier qui est sorti. Moi, il me semblait que dans le season final, on lui réglait son compte,
Il
mais...
était un peu mort?
Bah...
J'ai
Il me
pensé,
semble
quoi.
pas, moi.
Bon,
Si, je crois que c'est bien.
j'ai un doute là-dessus, mais il me semble que voilà, on n'était pas censé le revoir.
Ah non, logique, enfin, il prend quand même des lames, quoi. Je sais pas.
Donc bon, voilà,
Alors.
en tout cas, il est là et ça me dérangeait un peu. Donc c'est peut-être à raison que ça me dérangeait. Bon, après, c'est clair que l'histoire, c'est pas palpitant, quoi.
Ouais, bah, pas ce premier épisode, enfin, premier comics, ouais, ils attaquent l'avion, ils sauvent Roy Harper, et le deuxième, bah, on voit un jeune qui est récupéré par un disciple de Brother Blood. Enfin, ouais,
Ouais, enfin voilà, c'est
c'est pas non plus, oui, c'est vendu même pas un
80...
dollar, c'est ça,
Ouais,
ouais.
c'est 0,99 dollars.
Ouais. ça va
Mais
quoi.
enfin, ça
Mais
l'avoue
bon.
presque pas, quoi. Il faudrait que enfin, gratuit, je suis pas sûr de les prendre, quoi.
Oui, ouais, à la rigueur, ouais, en free comics, ouais, ça passe. Mais bon.
Enfin voilà, le but en fait de ça, c'est de développer l'univers télévisé dans des comics. Mais pour moi, c'est. Enfin, pour moi, ils sont passés à côté, quoi.
En même temps, oui, dis-moi.
J'ai pas, enfin, j'ai juste feuilleté le Flash saison 0 qui, visuellement, pour le coup, Elvire, t'aimais pas l'île Gotham. Bah, alors là, pour le coup, moi, ça me pique aux yeux aussi, cette version de Flash.
Ce point-là.
Ouais. Donc, du coup, c'est. Ouais, c'est quand même. Enfin, pour moi, c'est une grosse déception, quoi. Je me disais, ah, cool, pour attendre un peu la série télé, on va nous mettre quelques épisodes en digital, on va voir un peu ce qu'ils deviennent et tout, et en fait, non, quoi. Donc, autant on aurait pu vous conseiller le comics de la semaine dernière qui était Batman and Robin Futures End, autant cette semaine, pour Arrow saison 2.5,
Ouais.
vous pouvez clairement passer votre chemin.
Oui.
Comme quoi, le comics de la semaine, c'est pas toujours quelque chose de bon.
C'est
Bien, on a terminé avec le comics de la semaine, on a donc terminé avec cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous mardi sur Comic Stories et sur nos écrans, comme nous l'avons annoncé en début d'émission, pour la première émission consacrée aux séries télé. Évidemment, on reviendra sur le pilote de Gotham et également sur le season première d'Agents of Shield, saison 2, on verra un petit peu ce que ça vaut. On n'aura que ces deux épisodes à traiter la semaine prochaine, donc on pourra prendre plus de temps que ce ne sera le cas par la suite dans la saison. Donc rendez-vous mardi pour cette émission et rendez-vous samedi prochain pour une émission d'un format plus classique dont le thème sera The Flash. Et on se demande pourquoi. Nous vous souhaitons donc une bonne semaine. Rendez-vous mardi. D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes lectures et puis de bonnes séries. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.